Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Démier et ses invités.
Bonjour, ravi de vous retrouver en compagnie de Mathieu aujourd'hui.
Bonjour Yves.
voilà,
non,
ça
c'est
y est.
Pas Yves. Voilà, je suis habitué à réaliser les émissions d'Yves et de Bob, et non, c'est François en face de moi.
Voilà, j'existe quand même un petit peu.
Vas-y, t'es là, mon Yves, j'allais dire mon François.
Eh bien, aujourd'hui, j'accueille Sophie Gedge-Mété, qui est thérapeute. On va en savoir dans quelques secondes un peu plus, puisque le nom de thérapeute, c'est un terme générique qui veut dire tout et pas grand-chose, finalement. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors, vous êtes thérapeute, Chanel et créatrice de formation en ligne. Votre travail est principalement orienté sur la guérison du cœur. Donc, dès que le cœur va mieux, tout va mieux, finalement. Et on se sent bien dans sa peau.
Oui, c'est vrai que le cœur, c'est vraiment le centre. C'est le centre de l'amour de nous-mêmes, et ça commence par là. Et à partir de cet amour de nous-mêmes, eh bien, on peut aller vers des relations plus équilibrées.
Alors, au cours de cette heure, on va parler de votre parcours. Vous êtes au départ diplômé de Sciences Po et d'un DESS de ressources humaines. Vous avez travaillé pendant 10 ans dans les ressources humaines avant d'écouter l'appel profond de votre âme en vous dirigeant vers l'accompagnement thérapeutique. Vous êtes titulaire d'un master PNL et d'un master en hypnose ericksonienne. Vous êtes formé aux soins énergétiques selon les enseignements transmis par Marie Lise de la Bonté, en soins quantiques avec Franck Kislo, en psycho-énergétique, etc., etc. Je vais pas tous... Vous êtes très, très, très diplômés.
J'ai eu un long parcours, oui.
Alors, au départ, comment cela a-t-il commencé pour vous,
Au départ, ça a commencé par un appel profond, on va dire une attirance par tout ce qui touchait au développement personnel et spirituel. Et ce qui fait que j'ai commencé à travailler sur moi très tôt, dès mes premières années d'adulte, vers 20 ans.
Alors, qu'est-ce que vous recherchiez à cette époque-là?
Alors, il y avait cette attirance, et puis c'est vrai que vers l'âge de 20 ans, j'ai fait une dépression, sans raison apparente.
Oui, parce qu'à 20 ans, c'est plutôt...
Oui, c'était vraiment sans raison apparente, je ne comprenais absolument pas pourquoi. Mais on va dire que je sentais un appel profond vers trouver plus de sens à ma vie.
Et ça se traduisait comment, cette dépression? Parce qu'il y a différentes formes.
Ça se traduisait par le fait que j'avais perdu toute mon énergie, et toute ma confiance en moi. Et ça m'a amené en fait à mon premier stage de développement personnel qui était basé sur la pensée créatrice. Et c'est là que j'ai vraiment découvert et mis en pratique le pouvoir de la pensée. Et en fait, quasiment en un week-end, je suis sortie de là et c'était terminé, c'était derrière moi, ça n'est plus jamais revenu depuis. Et surtout, je me suis mis à pratiquer à ce moment-là, c'est-à-dire à pratiquer à être vigilante à mes pensées et à la force créatrice de mes pensées.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec sa pensée?
Eh bien, d'abord, diriger ma pensée sur ce que je veux.
Déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a beaucoup de gens, le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent.
Alors, ça, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que souvent, quand je reçois des personnes, une des premières questions que je leur pose quand ils viennent me voir, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Et souvent, ils me répondent ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux plus me sentir mal dans ma peau, je ne veux plus avoir manqué de confiance en moi, etc. Et je leur dis, mais attendez, imaginez que vous appelez un taxi. Et vous leur demandez, et leur taxi vous demande, mais vous voulez aller où? Et puis vous lui répondez, mais moi je veux surtout pas aller à Pigalle, surtout pas. Le taxi vous dit, oui d'accord, mais vous voulez aller où? Pas aux Champs-Élysées, surtout je veux pas aller aux Champs-Élysées. Au bout d'un moment, le taxi va me dire, d'accord, mais vous voulez aller où?
Je pense que le taxi parisien va pas être très patient, il sera déjà parti voilà. Au bout de ton réponse.
L'univers, c'est ça. Souvent, la vie nous demande, mais tu veux aller où? Et si on lui répond où on veut pas aller, on va pas aller très loin.
Mais alors justement, mais comment on peut savoir où est-ce qu'on peut aller, quoi?
Alors justement, en écoutant, à partir de notre cœur, qu'est-ce qui vraiment éveille en nous un sentiment de joie? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui éveille en moi un sentiment qui va faire que, ah, voilà, là, c'est vraiment ça. Et souvent, ce sont nos talents naturels, c'est-à-dire ce qu'on a du plaisir et de la facilité à faire, à offrir, à partager, qui va nous donner ces indications.
Mais c'est quand même difficile quand même. À 20 ans, on ne sait pas forcément ce que l'on veut faire, ce que l'on ressent. Ça dépend des personnes finalement. C'est quand même un peu compliqué. Il y a des gens à la fin de leur vie, ils ne savent toujours pas pourquoi ils sont là.
Oui, mais si à la fin de leur vie, les gens ne savent toujours pas pourquoi ils sont là, moi, c'est qu'ils ne se sont pas accordés des moments d'écoute intérieure.
Il y a une solution pour chaque personne?
Alors, solution, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est prendre des temps pour moi d'intériorisation où je vais pouvoir rentrer à l'intérieur de moi et puis écouter, ressentir qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, qu'est-ce qui m'appelle. Et ça, on a tous quelque chose à l'intérieur de nous qui nous appelle plus particulièrement. Alors, c'est sûr qu'il va falloir parfois du temps pour que ça se clarifie. Mais souvent, d'ailleurs, c'est au moment de l'adolescence où s'éveillent en nous les premières prémices de ce qu'on a vraiment envie d'accomplir, de partager au monde.
Et donc, vous pensez que chaque personne a ce qu'on peut appeler une mission de vie
Absolument. Chaque personne a une mission de vie. Alors, attention, le terme mission, ce n'est pas forcément
une grande
mission. Voilà, mais c'est ce que j'appelle mission de vie. Enfin, moi, je l'appelle mission d'âme. C'est ce que notre âme a plus particulièrement choisi d'expérimenter, de guérir, de vivre et d'accomplir dans notre vie présente.
Alors, parler d'âme aujourd'hui, c'est pas facile, parce que finalement, on ne sait pas ce que c'est du tout, l'âme.
Alors pour moi, l'âme, en fait, c'est par notre étincelle divine, c'est la part de nous qui est la plus reliée au plan céleste, qui a une vision beaucoup plus vaste de qui nous sommes, et c'est aussi notre étincelle d'amour.
Mmh. Alors cette âme, est-ce qu'elle peut être malade? Est-ce qu'il faut la soigner?
Oui, c'est-à-dire que cette âme, elle peut avoir des blessures, en fonction de ce que nous avons vécu, en fonction des conclusions que nous avons tirées aussi, de ce que nous avons vécu. Elle peut avoir des blessures, et notamment on retrouve souvent ce qu'on appelle les blessures fondamentales, hein, qui sont l'abandon, la trahison, la non-reconnaissance, l'humiliation, le rejet, la maltraitance, pour en citer quelques-unes. Et ça va correspondre en fait aux blessures qu'on a le plus répétées dans notre vie.
C'est-à-dire qu'on recherche toujours les mêmes problèmes, alors finalement?
Alors, ce n'est pas exactement qu'on recherche les mêmes problèmes, c'est que...
On trouve alors.
Nous attirons à nous les mêmes problèmes pour avoir une nouvelle opportunité de les conscientiser et de s'en libérer. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas conscientisé, qu'on ne s'est pas libéré d'une blessure, eh bien, on va l'attirer à nous de façon quasi magnétique. C'est-à-dire qu'on va attirer les circonstances et les rencontres qui vont réactiver cette blessure pour nous donner l'opportunité d'y poser un nouveau regard et une réaction différente.
Alors, quelle est la relation entre, finalement, ce qu'on disait à l'instant, la pensée et l'âme? Est-ce qu'il y a une connexion directe ou sont des choses complètement séparées ou... Comment alors, ça fonctionne? Comment ça marche?
Alors, il dirait que la connexion avec l'âme, on va l'avoir par notre inspiration, par nos inspirations profondes. La pensée, après, ça va être la façon dont le mental va le traduire. Et la pensée, c'est un outil créateur, hein, et tout comme un couteau, il peut nous servir à accomplir des choses merveilleuses, comme à détruire ou à nous autodétruire. Donc la pensée, c'est un outil et dont on a quand même absolument besoin pour fonctionner dans le monde matériel.
Alors Sophie Gage, vous m'avez dit tout à l'heure que très jeune, vous avez pris, grâce à ce stage, vous avez pris conscience de votre développement personnel, mais en même temps vous avez travaillé dans les ressources humaines, alors je ne sais pas s'il y a un rapport, parce qu'il y a toujours le mot humain dedans. Vous avez réussi à concilier les deux en même temps pendant 10 ans? Ça n'a pas été difficile ou au contraire vous avez appris beaucoup de choses?
Alors... Au départ, j'y suis entrée avec un grand enthousiasme et je m'y plaisais très profondément. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que souvent c'est au moment de l'adolescence que les premières prémices de notre mission d'âme se font sentir. Et quand j'étais adolescente, ma première vocation c'était d'être journaliste. Parce que j'étais fascinée par le pouvoir de transformation que pouvaient avoir les journalistes, c'est-à-dire de l'éveil des consciences en fait qu'ils pouvaient amener à travers ce qu'il transmettait.
Et puis... ce qui est rarement le cas, quand même, malheureusement.
Oui, mais
je peux le dire d'autant plus
cas...
que je suis journaliste. Donc
C'était la vision que j'en avais quand j'étais adolescente. Et puis, donc j'ai fait Sciences Po pour être journaliste au départ. Et j'ai fait un stage dans le journalisme. Et là, je me suis rendu compte, en effet, de l'écart entre la vision idéale que j'en avais et puis la réalité. J'ai eu le sentiment... J'ai découvert un monde plus dur que je ne l'imaginais et j'ai eu le sentiment à ce moment-là d'être un peu entre guillemets comme une biche dans un monde de loups. Je ne me suis pas sentie prête. Et ce qui fait que je me suis réorientée vers les ressources humaines. Simplement, la façon dont je le comprends aujourd'hui, c'était que ce qui me fascinait dans le journalisme, c'était justement la capacité d'éveiller les consciences.
Et que tout c'est étonnant parce que moi, je n'ai jamais pensé que les journalistes pouvaient vraiment éveiller les consciences.
Quand j'étais adolescente, c'était vraiment ce qui me fascinait, c'était la vision que j'en avais. Et puis, après... en tout cas, la façon dont je le comprends aujourd'hui, c'était que ma mission d'âme, justement, en tout cas, l'éveil, l'élan profond que j'avais, c'était autour de l'éveil des consciences. Et que plus tard, en fait, c'est en devenant thérapeute puis formatrice que j'ai pu et que je peux encore aujourd'hui vivre cet élan.
Mais qu'est-ce qui parlait en vous? C'est quand même, quand on est jeune, tout d'un coup, de vouloir réveiller des consciences. C'est l'ego qui vous permettait d'avoir ce genre de choses. C'était quelque chose qui vous poussait en vous.
C'était quelque chose qui me poussait en moi, oui. Oui, oui. C'était quelque chose qui me poussait en moi, absolument.
Parce que, et alors, vous saviez sur quoi fallait éveiller les personnes? Vous aviez déjà des domaines de...
Alors, à l'époque, franchement, non.
Mm-hmm. Alors, c'était très vague, alors, finalement.
Oui, à l'époque, c'était vague. C'est vraiment au fur et à mesure de mon parcours que ça s'est développé. Et puis, je rebondis quand même sur quelque chose que vous avez dit, François, qui est très important, c'est que j'ai travaillé pour. Mm-hmm. C'est-à-dire que on a tous en nous des potentiels, des idéaux, des talents, des dons. Ensuite, notre mission, si je puis dire, c'est de les mettre en œuvre. Et ça, ça demande du travail. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un potentiel à la base qu'on n'a pas besoin de le travailler. Hein, quelqu'un qui a un potentiel d'être un très grand musicien, s'il veut vraiment devenir un très grand musicien, ça va quand même lui demander de travailler la musique. Mmh. Donc c'est vrai que je me suis engagée, je me suis investie. Mmh. Alors avec beaucoup de plaisir, hein, parce que ça me plaisait. Mais je me suis vraiment engagée dans ma voie et c'est ce qui m'a permis de progresser aussi sur mon chemin.
Puis surtout, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, donc c'est quand même injuste finalement. Comment finalement personne... certaines personnes ont des dons et d'autres n'en ont pas. Donc...
Je ne suis pas d'accord avec ça.
Non.
Non.
Parce qu'on peut toujours travailler, on peut toujours avoir des facilités pour la musique, mais on ne sera jamais...
Alors, c'est vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a chacun nos capacités propres et qu'on a chacun la capacité de développer ses capacités propres. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on a tous le potentiel d'être un virtuose de la musique, mais qu'on a chacun le potentiel à notre niveau de pouvoir développer les talents que nous avons à notre niveau. Mmh.
Alors, dans les ressources humaines, justement, vous les avez trouvées, ces fameuses ressources?
Au début, oui. Mmh. Et puis, au fur et à mesure que les années passaient, je me suis sentie de moins en moins à la place. C'est-à-dire que j'ai commencé de plus en plus à sentir un décalage entre mes aspirations, entre mes valeurs, et puis ce que je faisais, où j'avais l'impression finalement que je faisais ce qu'on me demandait de faire. Où je me sentais de moins en moins justement à ma place. Et à un moment donné, c'est devenu comme l'évidence que j'avais à quitter. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on m'a dit, mais t'es courageux, tu te rends pas compte, le poste que t'as, je gérais 350 personnes, j'étais dans une très grande entreprise, le salaire que t'as, etc., les avantages que tu as. Et en fait, pour moi, je ressentais pas une once de courage, tellement ça me paraissait évident.
Mmh. Mais alors, c'était important pour vous au départ de... Ce poste, ça correspondait à vos rêves, finalement?
Au départ...
Est-ce que finalement, l'entreprise, on s'occupe vraiment de la ressource humaine ou c'est simplement de l'administratif, quoi?
Je crois que j'ai vraiment quand même essayé de m'occuper des ressources humaines. Mmh. Et je crois quand même qu'on peut beaucoup faire en entreprise et qu'il y a des gens magnifiques qui font beaucoup en entreprise. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'administratifs et beaucoup de contraintes. Cela dit, je suis quand même persuadée que l'on peut rayonner où que l'on soit.
Et donc, vous vous occupiez donc de 350 personnes. Et est-ce que ça vous arrivait de trouver des gens qui n'étaient pas du tout à leur place?
Bien sûr.
Parce que vous avez déjà cette capacité, cette empathie envers les personnes. Donc, ça devait être difficile de faire le partage entre ce que vous ressentiez sur les personnes et puis... Et puis la réalité de l'entreprise.
Oui. Et ce qui m'a frappé aussi, en même temps, c'était que je rencontrais beaucoup de gens en entreprise qui, quoi qu'ils avaient, quelque part, n'étaient jamais contents. Mmh. C'est-à-dire que c'était jamais assez. On parlait de l'influence de la pensée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils se focalisaient systématiquement sur ce qu'ils n'avaient pas plutôt que sur ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est important, collectivement, mais aussi pour notre bien-être à chacun, de se focaliser sur ce qu'on a, plutôt que sur ce qu'on n'a pas.
Mmh. Et donc, pendant ces 10 années, vous avez fait beaucoup de stages, beaucoup de formations?
Oui, je me suis beaucoup formée.
Vous n'êtes pas partie sans rien, donc...
J'ai passé toutes mes vacances à me former dans donc les domaines... de la psychologie, de la thérapie, de la spiritualité.
Mais ça, c'était pour vous ou c'était dans l'optique de devenir un jour thérapeute ?
Non, c'était dans l'optique de devenir un jour thérapeute. Au-delà de ça, ce que m'a quand même beaucoup apporté l'entreprise, c'est la capacité à m'organiser, à structurer les choses, à aller à l'essentiel. Et ça, je trouve que c'est important. Parce que je rencontre aussi beaucoup de personnes dans les domaines du développement personnel, de la spiritualité, dont j'ai l'impression qu'elles se noient dans un verre d'eau. Mmh. Et pour moi, c'est aussi important que cette spiritualité, on puisse l'ancrer dans notre quotidien. Et ça passe par aussi s'organiser au mieux dans notre quotidien.
Le problème du développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses. Pour les personnes qui veulent commencer, qui sentent qu'ils ont un appel, c'est quand même compliqué de savoir vers où se diriger. Quoi.
Là encore, c'est sentir qu'est-ce qui nous attire le plus. Mais une fois qu'on a senti ça, c'est, je dirais, s'engager avec persévérance. Parce que pour moi, c'est ça qui va faire la différence. Ça va être de pratiquer de façon régulière et persévérante.
Alors parmi ce que vous avez appris, je vois que vous avez un master en hypnose. Donc, quelle est l'importance aujourd'hui dans votre travail de l'hypnose ?
Alors, on va dire que je l'ai intégré dans une façon d'accompagner les personnes avec la respiration, etc. Bon, cela dit, j'utilise de moins en moins. C'est pour moi d'abord, en fait, l'hypnose, et on parle vraiment d'hypnose ericksonienne, hein, qui n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. Mmh. C'est une façon simplement d'amener chacun à l'intérieur de soi, ce qu'on appelle un état de conscience modifié, qui permet un contact plus grand avec l'inconscient. Et donc avec nos propres ressources. Donc c'est quelque chose, on va dire, que j'ai intégré dans les guidances que je transmets.
Mmh. Alors qu'est-ce que vous apprenez sur l'autre pendant la phase d'hypnose ? Vous percez les secrets ?
Non.
Non ?
Non, ça c'est l'hypnose de spectacle et c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Non. Mais mon but c'est vraiment d'amener la personne à l'intérieur d'elle-même, dans une écoute plus grande de son monde intérieur et dans un contact plus grand avec ses propres ressources. Mmh. Et là, on appelle l'état d'hypnose, qui est tout simplement un état de conscience modifié, va aider à pouvoir passer les barrières du mental pour aller plus profondément à l'intérieur de soi.
Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Qu'est-ce que les gens trouvent à l'intérieur d'eux-mêmes ?
Beaucoup de choses. Ils trouvent leurs désirs profonds. Ils trouvent parfois des blessures qui ont besoin d'être libérées. Ils trouvent des émotions bloquées. Et ils trouvent aussi, pour moi c'est le plus important, leur sagesse intérieure, c'est-à-dire cette capacité à se connecter à ce que j'appelle notre guide intérieur, qui est l'aspect de nous le plus élevé, le plus sage. Et en fait, tout mon parcours au cours de ces dernières années, c'est de plus en plus orienté vers le contact et puis la transmission, l'enseignement autour du guide intérieur. Parce que pour moi, c'est le plus important, c'est-à-dire c'est cette capacité que j'ai à pouvoir me connecter à cette partie de moi qui sait à tout moment ce qu'il y a de meilleur, de plus approprié pour moi, qui sait quels sont les meilleurs choix pour moi, qui sait là où il est bon que je me dirige.
Mais alors, il se trouve où ce guide ?
Alors, ce guide, il se trouve à la fois dans notre cœur, mm-hmm. puis au niveau, c'est relié à ce que j'appelle notre âme ou notre étincelle divine. C'est vraiment dans ces profondeurs qu'on peut le trouver. Mais je dirais qu'une des portes d'accès se trouve dans notre cœur.
Il est toujours de bons conseils, à 100%.
Oui, quand on arrive vraiment à connecter notre guide intérieur et pas d'autres aspects de nous, mm-hmm. Il est toujours de bons conseils parce qu'il a une vision beaucoup plus large que notre propre mental. Il tient compte, on va dire, non seulement de notre bien le plus élevé, mais de celui de tous. Et il sait, en fait, ce qui nous correspond le mieux à tous les points de vue.
Vous vous rappelez de la première fois que vous avez été en contact avec votre guide intérieur ?
Ah oui, je m'en souviens. En fait, j'étais en train de méditer, et puis je me posais la question si ça valait vraiment le coup que je suive une formation. Et j'ai eu l'idée, en fait, brusquement, de poser cette question alors que j'étais dans cet état méditatif. Et là, j'ai eu la surprise de me rendre compte que mon corps a commencé à bouger de façon involontaire. C'est-à-dire que ma tête a commencé à bouger vers l'avant, à se pencher vers l'avant dans un mouvement en fait saccadé et involontaire. Et j'ai compris que ça voulait dire oui. Donc par la suite, j'ai continué à poser d'autres questions que je me posais sur ma vie et je me suis rendu compte que soit ma tête allait là encore dans un mouvement saccadé et involontaire vers l'avant pour dire oui, soit elle allait sur le côté pour dire non.
Mmh. Ah bah c'est pratique.
J'ai trouvé ça super pratique.
Mmh. Mais vous êtes sûr que c'est pas l'inverse ?
J'ai commencé à tester. Mm-hmm. Et puis à voir après dans la réalité si les réponses que j'avais étaient justes.
Mais c'était quel genre de questions ?
Alors sincèrement, aujourd'hui, mm-hmm. je pose des questions sur n'importe quel domaine de ma vie où j'ai une hésitation. Aussi bien pour peut-être pour des grandes questions des grandes questions de vie, que pour les questions mais vraiment les plus concrètes, est-ce que même ça vaut le coup que j'aille là en vacances, ou est-ce que ça vaut le coup que je fasse tel atelier donc dès que j'ai une hésitation sur un choix, je demande à mon guide intérieur, voilà, est-ce que mon action juste, la façon dont je pose la question souvent, c'est est-ce que mon action juste c'est deux, ou est-ce qu'il est juste utile et important pour moi deux, et puis je poursuis. Voilà. En précisant, je dis toujours quand même que ma question s'adresse à mon guide intérieur, parce que je sais que nous sommes tous constitués d'une multitude d'aspects, et de la même façon que quand je pose, si un groupe de personnes, si je veux poser la question à un expert qui est dans le groupe, eh bien, je vais dire à qui la question s'adresse, eh bien, de la même façon, quand je pose une question à l'intérieur de moi, je dis à cette question s'adresse à mon guide intérieur. Et même souvent, j'ajoute, voilà, et je demande à tous les autres aspects de moi d'être transparent, c'est-à-dire de ne pas interférer.
Alors, le libre arbitre dans tout ça, puisque finalement, sur une question, il peut y avoir des milliers de possibilités. Donc, pourquoi ce guide fait-il le meilleur choix ? Il fait le bon choix ou le meilleur choix ?
Justement, c'est là qu'il est notre libre arbitre. C'est que mon libre arbitre, il est dans le fait que je suis consciente en posant la question que j'ai le choix, que ce choix m'appartient, et que donc dans mon libre arbitre, je vais poser la question à celui que j'estime être l'expert, je puis dire, dans mon monde intérieur, qui est l'aspect de moi le plus élevé, qui est connecté, on va dire le plus connecté aussi à mes guides, au plan céleste, donc qui a accès à une vision beaucoup plus vaste.
Alors depuis que vous faites ça, au point de vue de votre corps, de votre santé, il y a eu des progrès immédiats ou de bien-être
Alors c'est clair qu'il y a eu un progrès énorme en termes de bien-être, en termes de confiance en moi mm-hmm. aussi. Parce que je trouve que d'avoir cette capacité à aller vers ce qui est bon, ce qui est juste pour nous, en tout cas moi je sais que ça a beaucoup nourri la confiance en moi. Et puis surtout, ça me facilite la vie au quotidien. Parce que, qu'est-ce qui se passait avant ? Quand j'avais un choix à faire, je pouvais mouliner pendant des heures. Alors finalement, est-ce que je fais ça ? Mais parce que d'un côté ceci, d'un côté cela, etc. Là, maintenant, c'est, je dirais, une paix mentale beaucoup plus grande. Parce que je pose la question, j'ai la réponse. À partir de ce moment-là, c'est ça vraiment une décision que j'ai prise. Je passe à l'action immédiatement par rapport à ce qui est dit. Et c'est vraiment une paix mentale beaucoup plus grande.
Et ça fonctionne aussi. Alors, quand vous recevez des personnes, vous utilisez le même système ? Vous faites appel au guide des personnes, à votre guide ou...
Alors, oui, mais maintenant, de plus en plus, c'est-à-dire que... c'est vrai qu'il y a des personnes qui me demandaient, mais est-ce que tu peux poser la question, cette question, etc. Et quand j'ai demandé à mon guide intérieur et à mes guides, ils me disaient que ce que j'avais surtout à faire, c'est à enseigner aux autres comment le faire. Mmh. Parce que je dirais, mon but, c'est vraiment toujours de guider les gens vers leur autonomie. Et ce que j'adore, c'est transmettre aux autres des outils qui les amènent dans une autonomie. Mmh. C'est vraiment ça qu'on a tous à faire, c'est revenir dans cette autonomie intérieure.
Bah, donc, finalement, ce sont des personnes que vous avez pu revoir après, donc c'est un petit peu dommage pour le business.
Franchement, je préfère guider les personnes vers leur autonomie.
Alors, ça demande beaucoup de séances ou finalement, ça dépend des personnes ?
Alors, maintenant, là, c'est vraiment des choses que je transmets dans une formation en ligne. C'est sûr que ça demande un travail intérieur. C'est-à-dire, ça demande de suivre les différents modules et puis de pratiquer. Donc, je guide les personnes pas à pas. D'abord, pour aller travailler sur les blocages à la connexion à notre guide. Et ces blocages, ça peut être par exemple des croyances que je peux pas y arriver, que les autres peuvent y arriver, mais pas moi. Ça peut être souvent beaucoup des pensées de dévalorisation également, de sentiments que qu'on va pas y arriver, qu'on n'est pas à la hauteur, etc. Donc on va commencer par travailler sur les blocages. Puis ensuite, je les guide à travailler sur l'élévation du taux vibratoire. Parce que ça, j'explique, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire, pour contacter notre guide intérieur, on a besoin d'être sur une certaine fréquence. Exactement comme là, on est à la radio. Pour que les personnes nous écoutent, il faut qu'elles se soient connectées sur une certaine fréquence. Sinon, si elles se mettent sur une autre fréquence, eh ben, elles vont pas nous entendre, elles vont entendre une autre voix, autre chose. Et pour atteindre donc cette fréquence de notre guide intérieur, donc ça suppose d'élever notre taux d'énergie. Donc je vais les amener à travailler sur l'élévation de leur taux d'énergie, et puis ensuite je transmets un certain nombre d'outils pratiques pour connecter son guide intérieur. Alors je transmets toujours toute une série d'outils, parce que ce que j'ai constaté en fait à travers toutes les formations que j'ai données en présentiel, c'est que les personnes, il y a toujours un ou deux outils qui va leur convenir plus qu'un autre, et que ça varie suivant les personnes. Donc c'est pour ça que je préfère toujours transmettre toute une série d'outils pour que les personnes puissent expérimenter et qu'à partir de là, elles puissent sentir ben voilà, quel est l'outil qui leur convient le mieux et le mettre en pratique régulièrement.
Donc c'est une question d'entraînement aussi, on ne peut pas y arriver du premier coup.
Oui, franchement c'est une question d'entraînement et je dis pour les personnes qui ont peur de ne pas y arriver ou quoi, vraiment on peut y arriver, mais ça demande un entraînement. Il y a des personnes qui vont y arriver extrêmement rapidement, des personnes pour qui ça va prendre plus de temps, parce qu'on a chacun notre propre rythme, parce qu'on a chacun nos propres bagages au départ. Mais quand on a, je dirais, l'engagement, la motivation et l'engagement de pratiquer régulièrement, à un moment donné, eh bien, il y a une familiarisation aussi des différents aspects de nous et de notre inconscient avec cet aspect plus élevé. Et au fur et à mesure de notre désir de nous connecter à ce guide intérieur, eh bien, la communication va devenir plus facile, plus fluide, exactement comme dans une relation avec une autre personne. Eh bien, c'est au fur et à mesure qu'on la rencontre et qu'on échange avec elle que la relation peut s'approfondir et que la communication devient plus facile.
Est-ce que vous avez eu le cas de personnes qui ont été complètement surprises par ce qu'ils ont ressenti ? Ils ne s'attendaient vraiment pas du tout ou c'est en général, tout ce que leur guide peuvent leur annoncer, c'est des choses dont ils avaient déjà conscience ?
Alors, les deux se produisent, c'est-à-dire que parfois, ce que leur guide leur dit, c'est ce qu'ils pensaient, mais parce qu'ils étaient déjà, ça correspond à ce qui était juste. Mais il arrive aussi que parfois ça soit quelque chose de très surprenant. Les deux personnes, les deux choses peuvent se produire. Et puis, parfois ça vient par surprise. Je me souviens d'une personne qui m'avait contactée pour me raconter qu'elle avait écouté des vidéos que j'avais faites, que j'offre sur comment se connecter à son guide intérieur. Et puis, bon, au départ, il était un peu sceptique, etc. Et il me raconte qu'il a un rendez-vous médical où il doit avoir une petite intervention, pas très grave, mais on lui met de la crème anesthésiante. Et en fait, pendant que cette crème anesthésiante agit, il se retrouve d'un coup en connexion totale avec ce guide, c'est-à-dire qu'il disait que depuis des mois, il était aux prises avec une incertitude sur le fait qu'il devait vendre ou pas sa maison, enfin plusieurs questions, où il tournait en rond, il n'arrivait pas à se décider. Et d'un coup, vient, mais extrêmement clairement, la réponse à toutes les questions qui se posaient depuis des mois, dans un état de clarté intérieure intense. Et ça l'a énormément surpris. Et puis après, ça s'est dissipé. Et donc, il m'a demandé ce que j'en pensais, il m'a raconté ça. Et je lui ai dit, en fait, que ce qui s'était passé, c'est que dans son cas, mais apparemment, la crème anesthésiante avait un peu anesthésié son mental, si je puis dire. Et puis, lui avait permis ce contact avec ce guide intérieur, mais ça s'était produit aussi que parce qu'auparavant, il avait pu reconnaître ce guide intérieur et avoir la volonté aussi de se mettre en contact avec lui.
Alors tout à l'heure, vous parliez qu'il fallait donc trouver la bonne fréquence, alors moi ça m'intéresse. comment on la trouve ? C'est par la méditation ?
Alors il y a plusieurs outils pour ça. C'est sûr que les outils les plus traditionnels, si je puis dire, c'est la méditation et la prière qui vont augmenter notre fréquence. À côté de ça, l'outil que je préfère, en tout cas ce que j'ai reçu, ce que je reçois, ce que me disent les guides de lumière également que je canalise, c'est qu'ils insistent sur le fait qu'une des façons les plus simples et les plus puissantes d'augmenter notre fréquence au quotidien, c'est de cultiver l'état de gratitude et d'appréciation au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, souvent, on se rend compte, on a tendance à prendre pour acquis tout ce qu'on a. Ben oui, c'est normal, on mange à notre faim, on a une maison, enfin, on a un toit, on peut se doucher tous les jours, etc. C'est tout à fait normal. Et puis, c'est le jour où il y a un problème qu'on se rend compte que finalement, c'était drôlement bien quand c'était comme ça. Et on peut aussi, au quotidien, cultiver cet état de gratitude et d'appréciation pour tout ce qui est déjà là dans ma vie. Et ça, cet état de gratitude va, je dirais de façon quasi automatique, stimuler une augmentation de notre fréquence.
Enfin, c'est quand même abstrait, parce que là, à part d'en avoir conscience, c'est juste d'en avoir conscience, finalement.
Non, c'est pas juste en avoir conscience, et pour moi, c'est pas abstrait du tout. C'est très concret, c'est-à-dire que, pour donner un exemple, je me réveille le matin, ma première pensée, c'est voilà, je remercie pour la très belle journée à venir. Quand je prends un repas, je remercie pour la nourriture qui est devant moi, et je pense à tout ce qu'il a fallu pour que cette nourriture soit sur mon assiette. C'est-à-dire toutes les personnes qui l'ont cultivée, qui l'ont transportée, même la caissière qui a permis à ce que je puisse acheter cette nourriture, etc. Quand je sais pas, quand quelqu'un me rend un service, j'ai vraiment énormément de gratitude pour ça.
Et alors, quand quelqu'un vous marche sur les pieds ou je sais pas, vous bouscule, vous dites je ne dis pas merci.
Non, pas forcément, mais en tout cas, je suis contente d'avoir un corps qui me permet de pouvoir rebondir sur mes pieds. Et je remercie mon corps.
Eh bien, Sophie, on va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants.
Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Démier et ses invités. BTLV présente les rencontres du mystère et de l'inexpliqué 3. Les 17 et 18 juin prochains, 30 conférenciers, parmi lesquels Jean-Pierre Luminet, Patrick Burenstenas, Corinne Sombrin, Grimaud et Pouillard, vous donnent rendez-vous à l'espace Saint-Martin dans le 3e arrondissement de Paris pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Réservation onglet événements sur btlv.fr. Les rencontres du mystère et de l'inexpliqué, en collaboration avec Science et Inexpliqué, Savoir Perdu, Orbes de l'autre planète et OVNI Direct. François Démier, tous les après-midi. Et si on allait mieux ?
La suite aujourd'hui avec Sophie Gedge-Mété. Donc, on a commencé à parler un petit peu de son environnement, de sa vie, de ses transformations. Alors, aujourd'hui, vous faites des formations aussi en ligne. On en a parlé il y a quelques instants. Aujourd'hui, alors, qui vient vous voir ?
Alors, les personnes qui viennent, ce sont des personnes qui ont justement cet appel, qui sont dans un désir de plus grande autonomie, qui sont dans un désir de pouvoir être guidés de l'intérieur, c'est-à-dire qui n'ont plus envie d'aller écouter et toujours être dépendants en fait, de l'avis des autres qui savent mieux qu'eux, mais qui ont envie d'être guidés vers par leur essence profonde, en fait, et pouvoir ainsi aller vers ce qu'il y a de mieux pour eux, que ce soit dans leur vie affective, professionnelle, pour leur santé, etc.
Alors, on a parlé...
Des personnes qui sont, on va dire, déjà dans une démarche de recherche de développement personnel et spirituel et qui ont envie d'aller plus loin.
Alors, on a parlé longuement donc du guide intérieur et à l'instant, vous avez parlé aussi vous avez dit des guides. Donc, j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas tout seuls.
Alors, il y a deux choses. Il y a ce que je vous ai dit, ce que j'appelle notre guide intérieur, c'est vraiment un aspect de nous qui est le plus élevé, mais qui est vraiment une partie de nous. Et puis, à côté de ça, on a des guides qui ne sont pas notre propre âme, donc qui sont des âmes extérieures, on va dire, hein, non incarnées, et qui sont là pour qu'un peu comme des grands frères, c'est-à-dire qui ont atteint déjà un niveau de sagesse et d'amour très élevé, et qui viennent eux-mêmes poursuivre leur évolution en nous aidant un peu comme le feraient des grands frères et des grandes sœurs aimantes.
Alors justement, comment on peut faire la différence entre les deux ?
Alors, c'est pas toujours évident de faire la différence entre les deux. Et franchement, pour moi, c'est pas l'essentiel, parce que moi, ce qui m'intéresse de faire comme différence, c'est ce que je reçois, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est aidant ? Est-ce que c'est utile pour moi ? Après, que ça vienne de mon guide intérieur ou de mes guides de lumière, à la limite, peu importe. Surtout que souvent, c'est en lien, c'est-à-dire que notre guide intérieur se fait le transmetteur des conseils que peuvent nous donner nos guides de lumière. Donc très souvent, en fait, il y a une unité entre les deux. Simplement, la différence, c'est que je vais quand même spécifiquement poser des questions à mon guide intérieur pour toutes les questions très pratiques, très concrètes de mon quotidien. Et puis pour les questions plus vastes, je vais poser la question à mes guides de lumière.
Alors, tous ces guides, parce que visiblement, il y en a beaucoup, est-ce que dedans, on ne peut pas se glisser de mauvais guides ? Ou ils sont forcément tous positifs ?
Alors, nos guides, vraiment, ce qu'on appelle les guides de lumière, ils sont vraiment tous positifs. Après, il peut y avoir, il peut y avoir des entités qui sont, en effet, d'un niveau beaucoup plus bas, qui ne sont pas des guides, mais qui sont ce qu'on appelle des entités de l'astral, qui elles sont d'un niveau beaucoup plus bas et qui peuvent en effet se...
Ils ont une influence sur nous ou...
Alors, ils peuvent en avoir. Ils peuvent en avoir. Moi, j'insiste sur le fait qu'on n'est jamais victime. C'est-à-dire que s'ils sont là, c'est quelque part, on a ouvert une porte pour, peut-être qu'on a quelque chose à apprendre de ça. Peut-être que c'est là pour nous aider à développer notre discernement. En tout cas, les points, les critères importants, ça va être que les guides de lumière n'émettent jamais de jugement. Alors que les entités plus basses, souvent, elles vont émettre des jugements, elles vont émettre des critiques, elles vont émettre des pensées de dévalorisation.
Ils peuvent nous rendre dépressifs ou...
Ils peuvent nous rendre dépressifs, parce que c'est des entités qui peuvent pomper notre énergie. Mmh. Mais là encore, j'insiste, on n'est jamais impuissant face à ça. C'est-à-dire que parfois ces entités, elles aimeraient nous convaincre qu'on est impuissant, alors qu'on a en nous, en fait, une puissance qui est beaucoup plus importante que toutes ces entités. Il suffit qu'on se concentre sur notre lumière.
Évidemment, il faut en être conscient, parce que si on a des problèmes psychiques ou on ne sort pas très bien, on va aller chez un médecin, on va prendre des antidépresseurs et tout ça, ça va masquer. Donc finalement...
Oui, c'est vrai que c'est pour ça que je conseille quand même, quand on est très mal, il vaut mieux d'abord commencer par un travail thérapeutique, de s'occuper en fait de son mal-être, avant d'aller chercher à l'explorer d'autres dimensions.
On sait que vous allez voir un psy, par exemple, c'est quelque chose qui peut être bon ou...
Oui. Enfin, surtout un psy, je dirais, qui n'est pas seulement dans un travail analytique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que parler, mais où il y a un travail aussi de libération émotionnelle. On va aller aussi au niveau des charges émotionnelles que le corps a retenues.
Alors souvent, j'en parle dans ces émissions, il y a aussi, moi je pense que l'imagination a un grand pouvoir. Alors finalement, tout ce que vous me dites, est-ce que finalement ce n'est pas que de l'imagination ?
C'est très intéressant l'imagination, parce que pourquoi on va imaginer une chose plutôt qu'une autre ? C'est que ça peut avoir un sens aussi. Donc le problème, c'est pas pour moi l'imagination, c'est ce qui peut biaiser. Il y a plusieurs choses quand même qui peuvent biaiser. Ça va être plus les attentes qu'on peut avoir, c'est-à-dire l'attente d'avoir une réponse plutôt qu'une autre. Quand on pose une question, puis quand, par exemple, moi j'ai expérimenté, je me disais par exemple pourvu que ça soit oui, par exemple pourvu que j'ai ça. C'est pour ça que, par exemple aujourd'hui, quand je pose une question et que je sens que j'ai vraiment une attente très forte que la réponse soit une certaine réponse, à ce moment-là, je pose la question en imaginant que ça concerne quelqu'un d'autre, que ça ne me concerne pas. Ça m'est complètement égal. Et à ce moment-là, ça va m'amener à me détacher de mes attentes. Et puis, également pour éviter de capter des énergies des entités de plus basse vibration, je vous disais tout à l'heure... Quand je pose une question, je dis toujours la question s'adresse à mon guide intérieur, ou si c'est à mes guides de lumière, la question s'adresse à mes guides de lumière.
Alors, il faut être précis, alors.
Oui, il faut être précis. Absolument. Oui, absolument, il faut être précis. Il y a une loi du libre-arbitre dans l'univers et qui fait que, par exemple, je dis je suis canal, quand je me prépare, je dis toujours que je choisis de ne laisser entrer en moi que les êtres de lumière qui servent vraiment l'amour et la lumière et qui sont du niveau le plus élevé. Donc c'est un choix que je pose. Et à partir de là, quelque part, l'univers va répondre à cela.
Alors vous dites que vous êtes canal, ou channel, je ne sais pas ce qu'on dit exactement. Comment ça fonctionne ?
Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que...
C'est pour vous ou c'est pour les autres ?
Alors, c'est pour moi et pour les autres. Voilà, c'est beaucoup... je reçois et je te transmets beaucoup d'enseignements autour justement de comment se relier à son guide intérieur, autour de comment être soi-même canal. Hein, ça fait partie de ce que les êtres de lumière que je reçois enseignent depuis des années à travers moi. Et ce qui se passe, c'est que quand on est canal, donc je vous ai dit tout à l'heure, on est à une certaine fréquence, donc je vais élever ma fréquence. Les êtres de lumière que je canalise vont descendre la leur pour qu'on puisse se rencontrer. Et à ce moment-là, je vais d'abord toujours vivre une préparation intérieure, c'est-à-dire que je vais me mettre dans un état encore de méditation, de prière, de préparation spécifique. Je vais les appeler. Et à partir de ce moment-là, j'ai une énergie qui descend à travers donc ma couronne, hein, le sommet de ma tête, qui va descendre à travers moi. Je reste présente, donc je ne quitte pas mon corps, hein, comme c'est le cas de certains channels, mais je sens une énergie qui vient fusionner avec la mienne. Et à ce moment-là, je vais me sentir inspirée à... Il y a des paroles qui me viennent spontanément, qui ne sont pas les miennes. Avec, et alors, la particularité, c'est que je ne sais jamais quasiment la phrase qui va être dite l'instant d'après. C'est-à-dire que moi, quand on parle ou si je prépare une conférence, bon, j'ai une idée de ce que je vais dire après. Là, c'est une grande épreuve de lâcher prise pour moi, parce que je ne sais jamais ce qui va être dit l'instant d'après. Donc, c'est vraiment un travail d'abandon intérieur. Mais là encore, mon intention, c'est toujours de transmettre ce qui va être le plus aidant et le plus utile pour...
Vous êtes obligé de faire un tri quand même dans ce que vous recevez, vous le donnez comme ça, tel que ça sort.
J'ai pas le temps de faire le tri, c'est-à-dire que le tri se fait spontanément. Comme je suis vraiment en état canal, les choses viennent en fait, les choses viennent en fait spontanément.
Mais alors quand vous vous baladez dans la rue ou en voiture ou dans le métro, ça n'arrive pas.
Non.
Heureusement,
non,
ça pourrait être dangereux.
Absolument. Non, ça n'arrive que quand je les appelle et quand je vis auparavant ma préparation intérieure. Et là, j'entre dans ce qu'on appelle l'état de transe. Mmh. Donc c'est vraiment un état spécifique.
Et donc, est-ce que aussi vous avez des images ou des sons?
Non, pour moi, c'est essentiellement des mots qui me viennent en fait au fur et à mesure, mais pour certaines personnes, parce que je forme aussi beaucoup depuis 15 ans donc des personnes à la canalisation, et depuis cette année avec un programme en ligne aussi, il y en a pour qui ça se manifeste par des images, il y en a pour qui ça se manifeste en effet par des sons, c'est-à-dire chacun va pouvoir avoir un mode de perception plus particulier. Ça peut être aussi une canalisation d'énergie de guérison par exemple.
Pour quel type de... Pour n'importe quoi? Ou c'est selon les demandes des personnes? Ou c'est une aide? C'est un complément?
Alors, ça va être... là encore, chaque personne va avoir sa spécificité dans ce qu'il a à transmettre. Donc, il y en a beaucoup qui sont... par exemple, parmi les personnes que j'accompagne à travers mes programmes, il y a beaucoup de thérapeutes qui s'en servent justement pour aller plus loin dans leur accompagnement, pour pouvoir être plus inspirés, plus aidés dans leur propre accompagnement. Mais il peut y avoir aussi des personnes de tous les horizons.
Et vous êtes en contact avec la médecine dite officielle?
Alors, pour moi, il y a vraiment une complémentarité. C'est-à-dire que je ne souscris pas du tout à l'idée que, voilà, une fois qu'on est dans ces dimensions, on peut complètement se passer de la médecine officielle.
Bien sûr.
Pour moi, il y a vraiment une complémentarité. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est qu'on peut chacun, avec ses outils, prendre en charge notre santé. Et que plus on va être justement dans cette hygiène personnelle, plus on va prendre soin de nous, plus on va pouvoir favoriser notre santé. Après, il n'empêche que quand on en a besoin, la médecine officielle, elle peut vraiment aussi être utile. Pour moi, l'idéal, c'est vraiment d'être dans une complémentarité.
Justement, votre travail, quand vous avez 20 ans, c'était d'éveiller les consciences. Alors, est-ce que vous rencontrez des médecins justement pour éveiller leur conscience ou...
J'ai des médecins qui viennent me voir j'ai même une psychiatre qui a participé à une de mes formations sur la canalisation. J'ai des médecins qui participent également. Donc, bien sûr, ce sont des médecins qui sont dans une ouverture et on en a besoin aujourd'hui.
Vous pensez qu'il y en a de plus en plus ou c'est difficile encore aujourd'hui?
Écoutez, je crois sincèrement qu'il y en a de plus en plus. Et je parlais de cette femme-là qui est psychiatre, qui a participé à une de mes formations sur la canalisation. Elle me disait que c'était incroyable l'évolution qu'elle voyait depuis environ 2 ans. C'est-à-dire que cette femme, elle est psychiatre, et bon, bien sûr, elle est dans une ouverture, sinon elle suivrait pas mes formations. Mais en même temps, je dirais, sur sa plaque, il y a marqué psychiatre, quand les gens ils la contactent, je pense que c'est une psychiatre traditionnelle. Et elle me disait que depuis environ 2 ans, quasiment... 80% des personnes qui viennent la voir sont vraiment dans un état d'ouverture. Et que ceux qui ne le sont pas, au bout de quelques séances, ils y basculent naturellement. Donc je crois que réellement, il y a une ouverture de plus en plus grande. Simplement, ce qu'elle me disait, ce qui est très juste, c'est qu'au départ, les personnes n'en parlent pas parce qu'elles ont peur d'être prises pour des folles, etc. Mais que dès lors qu'elles sentent qu'il y a une ouverture, eh bien là, elles peuvent s'ouvrir.
Alors, est-ce que tout le monde peut devenir canal ?
Alors, je dirais que tout le monde peut être canal, dans le sens de canaliser déjà son soi supérieur, de pouvoir recevoir pour soi des énergies de guérison, de pouvoir se connecter à ses propres guides. Ensuite, il y a certaines personnes dont, je dirais, dans la mission d'âme, il y a le fait d'être canal à un niveau plus large, c'est-à-dire de recevoir les énergies, éventuellement les enseignements ou les messages d'êtres de lumière, pour soi ou pour les retransmettre. Et ça, c'est pas la mission de tout le monde. Hein, c'est vraiment une question de mission d'âme. Mmh. Mais en tout cas, être...
Mais ça, vous pouvez le reconnaître chez les personnes que vous voyez ou...
Alors, je dirais que les personnes vont d'abord le sentir en elles-mêmes. Mais d'abord, que souvent, quand elles commencent ce chemin, c'est d'abord pour elles-mêmes, pour d'abord être plus alignées avec leur propre lumière. Et ensuite, si elles ont à le partager, de toute façon, les signes leur seront donnés.
Alors, revenons à ces guides. Qui sont-ils ? Est-ce que vous arrivez à les définir ? Ce sont des gens qui ont déjà vécu ou simplement des guides qui sont là ?
Il y a plusieurs sortes de guides. Dans nos guides, il y a beaucoup d'êtres qui ont déjà vécu sur Terre, qui se sont réalisés, c'est-à-dire qui ont atteint un très grand niveau d'amour et de sagesse, et donc qui poursuivent leur évolution en nous aidant. Et puis, il peut également y avoir, on appelle des maîtres, qui eux sont à un niveau de conscience encore plus élevé, et qui ont pour mission de guider non pas quelques individus comme nos guides, mais l'humanité entière. Puis il peut aussi y avoir des énergies qui ne se sont jamais incarnées, qui vivent dans d'autres plans, d'autres dimensions, et qui viennent également... nous aider parce qu'on vit un passage extrêmement important au niveau terrestre. Et ce que nous disent actuellement les êtres de lumière, c'est que jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant d'êtres de lumière concentrés pour nous aider qu'actuellement.
Ah bon, on a bien besoin actuellement,
oui, absolument,
ça c'est sûr.
Et ils nous disent qu'en fait, on a chacun, en moyenne, suivant notre action, hein, entre 3 et 50 guides.
Ah bon ?
Donc c'est énorme, oui, qui nous sont assignés.
Ah bah, je vais faire appel à eux quand même.
Oui, mais ils n'attendent que ça. Mm-hmm. Parce que je disais, il y a la loi du libre arbitre. Pour intervenir, ils ont besoin qu'on les appelle. Donc ils n'attendent que ça, sinon ils sont au chômage quelque part. Sauf quand vraiment on en a besoin, parfois ils viennent nous sauver dans des circonstances extrêmes. Hein. Mais pour pouvoir bénéficier de leur aide, il faut commencer par leur demander.
Mais alors c'est la même chose que les anges ou...
Non.
C'est encore autre chose.
Non, c'est encore autre chose parce que les anges ne se...
Et vous arrivez à vous retrouver d'abord.
Oui, oui. Enfin, c'est assez simple. Hein. Les guides ont déjà été incarnés sur Terre. Donc, ça veut dire que quand même, ils connaissent beaucoup mieux les défis qu'on peut rencontrer au plan terrestre. Les anges, eux, n'ont jamais été incarnés. Donc, ils peuvent nous accompagner, peuvent nous inspirer avec leurs énergies de guérison, etc. Mais eux n'ont jamais été incarnés.
Et alors, les personnes de notre famille qui sont décédées ou nos ancêtres, est-ce qu'ils sont là ou pas ?
Alors, ils peuvent, mais tout dépend, je dirais, de leur niveau d'évolution. Parce que les personnes de notre famille qui sont décédées, c'est pas parce qu'elles sont décédées... du fait qu'elles soient passées de leur côté, qu'elles ont forcément un niveau d'évolution et de sagesse beaucoup plus grand. Donc, elles peuvent nous aider, mais les guides, c'est encore, ils ont un niveau de conscience encore plus élevé. Souvent, ils ont suivi tout un parcours aussi dans l'au-delà pour justement pouvoir nous aider sans interférer avec notre libre arbitre.
Alors, quelle est la différence entre vous qui êtes canal et puis un médium qui justement dit...
Alors, pour moi, c'est la cela. Différence... C'est que quand je dis que je suis canal, c'est-à-dire que vraiment je canalise des êtres de lumière. Je ne canalise pas des personnes décédées. Je canalise en fait des...
Et pour vous, c'est quelque chose qui existe ou vous l'envisagez ou...
Pour moi, c'est une évidence. C'est pas seulement une croyance. Je dis que c'est une évidence parce que j'en fais l'expérience. Donc c'est pas juste une croyance. Et donc en fait, il y a deux énergies spécifiques qui viennent à travers moi, qui sont les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain. Et j'évite en général, alors c'est vrai que c'est souvent associé à la médiumité. Personnellement, j'évite le terme de médium parce que pour moi, il est extrêmement associé à la voyance. Or, là, il ne s'agit pas de voyance. C'est-à-dire que souvent, les êtres de lumière, ils font rarement des prédictions. Tout simplement parce qu'ils disent que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le destin n'existe pas. On le crée en permanence à travers nos pensées, nos croyances, à travers nos actions, nos paroles. Donc, on peut le modifier à chaque instant. Alors, il peut y avoir, oui, des probabilités, mais ils insistent sur le fait que ce ne sont que des probabilités.
Alors, vous parliez de Madeleine et du comte de Saint-Germain.
Marie-Madeleine et du maître Saint-Germain. Voilà, donc ce sont deux êtres, là encore.
Mais là, il y en a deux, c'est parce que c'est en contact avec vous. Il y en a encore beaucoup d'autres que vous ne connaissez pas.
Il y en a énormément.
Mais dont on connaît le nom, bien sûr.
Oui, il y en a beaucoup. Ce sont ceux, quand quelqu'un est canal et qu'il a pour mission, entre guillemets, de retransmettre des enseignements, souvent il y a ce qu'on appelle des accords d'âme avec certaines énergies, qu'il a un lien plus particulier. Et voilà, donc ce sont les énergies qui viennent à travers moi, plus particulièrement, ce sont toujours les mêmes.
Alors comment vous les avez reconnus, puisque tout à l'heure vous m'avez dit que c'était simplement les mots qui vous venaient, donc ils vous ont parlé, vous les avez vus ou...
Au départ, l'énergie était là, mais je ne savais pas qui c'était. Ils ont mis, je sentais que cette énergie de maître, ça je le sentais très clairement, et je sentais qu'il y avait un maître d'essence masculine et un maître avec une énergie féminine. Je ne savais pas qui c'était. Et au bout de, souvent, enfin, ils ont mis du temps à me dire qui c'était parce que souvent, ils préfèrent éviter de créer des projections, en fait. Ils ne vont pas dire tout de suite leur nom pour éviter tout ce qu'on va projeter sur un inconnu. Et puis, au bout d'un moment, oui, là, ils m'ont donné leur nom. Mais en même temps, moi, je suis prudente avec les noms. C'est un nom qui correspond, on va dire, à leur incarnation la plus connue. Mais aujourd'hui, ils ont évolué. Pour moi, c'est comme des grands bassins d'énergie. Ils sont bien au-delà d'une incarnation. Donc, je les considère plutôt comme, quelque part, comme des bassins d'énergie. Et ce que j'ai l'habitude de transmettre quand je fais, par exemple, une canalisation publique, c'est que quand on dit, par exemple, je canalise Marie-Madeleine ou le Maître Saint-Germain, ou Marie, ou Yeshua, ou etc., il n'y a aucun corps humain qui est capable aujourd'hui de recevoir la totalité d'une énergie comme celle de Yeshua ou de Melchisédek, etc. Donc on va en recevoir une partie comme un rayon qui va être en résonance avec ce que nous sommes. Et c'est ce qui explique que, de par le monde, il y a beaucoup de personnes qui canalisent les mêmes entités, les mêmes noms, mais qui vont le faire de façon très différente. Et ça va toujours être quand même en résonance avec qui nous sommes et ce que nous aimons et ce que nous aimons transmettre.
Et vous pensez que toutes les personnes auront les mêmes réponses et à poser les mêmes questions
Non, elles n'auront pas les mêmes réponses parce que ça va être comme des prismes, elles vont avoir des réponses qui vont être complémentaires. En sachant que ça passe quand même toujours à travers le filtre de la personne qui reçoit. Donc la personne va pouvoir avoir différents éclairages. Moi, par exemple, j'aime bien dans ma vie ce qui est, on va dire, ce qui est concret, ce qui aide dans la vie quotidienne. Eh bien, j'ai remarqué que beaucoup d'enseignements que je reçois et que je retransmets sont beaucoup plus, on va dire, concrets et simples, parce que aussi j'aime bien ce qui est simple, que beaucoup de choses que je peux lire dans d'autres canalisations.
Donc finalement, c'est comme un grand dictionnaire, et puis vous prenez les lettres qui vous intéressent.
Un peu.
Mais alors, ces maîtres, alors pourquoi ils font finalement, ils ont besoin de vous, finalement ils n'ont besoin de rien, puisqu'ils sont déjà tellement élevés que...
Non, ils ont besoin de nous pour agir sur le plan terrestre, parce que nous on est incarnés, et eux, ils sont d'une fréquence tellement élevée, qu'elle est plus difficilement quelque part assimilable par la Terre. Donc ils ont besoin justement de personnes qui soient canales, pour permettre à leur énergie de redescendre, pouvoir être ajustée à la fréquence du plan terrestre, et puis pour pouvoir justement être enracinée sur Terre, et pour qu'on puisse la mettre en action, parce que c'est nous qui sommes sur Terre, c'est pas eux.
Oui, ils ont besoin, parce que finalement, est-ce qu'ils en ont réellement besoin ?
Ah, eux, ils en ont pas besoin.
Bah oui, c'est ça.
Juste, eux, ils en ont pas besoin, c'est juste que, comme ils sont dans un pur état d'amour, bah, ils ont envie de nous aider. Ils ont envie, non seulement de nous aider, mais d'aider la Terre à passer à évoluer, on va dire, vers plus... vers plus de paix, vers plus d'amour, vers une autre fréquence, une autre conscience.
Et ils interagissent avec les différentes entités, les différents anges ou différents guides, ou ils sont complètement séparés
Non, en général, au niveau des êtres de lumière, ils sont en connexion les uns avec les autres. Ils ont chacun leur spécificité, comme nous sur Terre.
Donc ils sont inattaquables, ils ne subissent pas d'attaque.
Eux, à leur niveau, non.
Donc c'est quand même...
Non, parce que, tout simplement... Ils sont dans un état d'amour, et ce qu'ils disent, c'est que l'amour est notre plus grande protection. On parle souvent de protection, en fait, sur Terre, du besoin de se protéger, etc. Et moi, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit qu'en fait, ils n'aimaient pas beaucoup le terme de protection, parce que qui dit protection dit peur. Souvent, le besoin de se protéger émane de la peur. Or, la peur, c'est justement ce qui va attirer à nous ce qu'on ne veut pas. Donc, le but, c'est pas d'essayer de se protéger parce qu'on a peur, mais, nous disent-ils, notre plus grande protection, c'est d'être... conscient de notre amour et de notre lumière.
Alors Sophie, qu'est-ce que vous faites, vous, chaque jour pour aller mieux, pour aller bien ? Parce que c'est un peu le thème central de l'émission.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des choses les plus importantes, c'est que chaque jour, je porte mon attention sur ce que j'apprécie dans ma vie. Et je remercie beaucoup. Donc, je disais le matin, là, ma première pensée, c'est là, je remercie pour la magnifique journée à venir. Et quand je me couche le soir, je me dis, voilà, je remercie pour chaque seconde de cette journée.
Et vous faites du sport,
alors je fais aussi
votre alimentation.
je me suis rendu compte qu'il y a deux choses qui étaient vraiment importantes pour moi, pour mon bien-être et mon équilibre. C'était en effet faire de l'exercice physique. J'en ai vraiment besoin. Et puis le soleil. J'ai aussi besoin de soleil.
Vous ne nourrissez pas de prana quand même?
Alors, non, je ne me nourris pas en tout cas que de prana.
Ouais, parce que j'ai déjà fait des émissions là-dessus, c'était assez étonnant, mais bon.
Non, je ne me nourris pas que de prana et j'apprécie beaucoup de manger. Mais j'essaye ça, c'est de respirer en tout cas consciemment et de respirer la lumière. Donc, ça c'est quelque chose qui m'apporte aussi beaucoup, de respirer ma propre lumière. Et je vous dis, dès que j'ai une question, je pose la question à mon guide intérieur. Je prends des temps réguliers, à peu près, je vais dire, presque chaque matin de méditation. Je dis presque chaque matin, c'est quand même que j'arrive à me lever avant mes filles.
Et donc, les gens que vous... Ça vous fatigue, finalement, de rencontrer toutes ces personnes? Ou c'est épuisant? Ou finalement, au contraire, ça vous...
Quand vous dites toutes ces personnes...
Toutes les personnes que vous recevez, toutes les formations que vous faites, vous...
Alors, bon, aujourd'hui... Je reçois de moins en moins, enfin en séance, en thérapie, je fais de moins en moins de séances individuelles parce que, ça fait quelques mois, j'ai eu de plus en plus l'appel de mettre mon énergie vers la formation et la transmission plus que les séances individuelles. Donc j'en fais presque plus, de moins en moins des séances individuelles. Maintenant, je fais de plus en plus de formations, à la fois en ligne et puis en présentiel. Et là, non, sincèrement, c'est quelque chose qui ne fatigue pas parce que j'ai une joie de transmettre. En fait, c'est parce que le maître Saint-Germain m'avait dit que je trouverais de plus en plus ma joie dans le fait de transmettre. Et c'est vrai, je me rends compte que j'ai vraiment de la joie à retransmettre bien ce que j'ai appris, de le synthétiser, de le rendre le plus clair possible pour faire une différence concrète et positive dans la vie des gens. Ça, c'est vraiment ça qui me motive et qui me donne beaucoup de joie.
Et aujourd'hui, quand vous regardez la petite Sophie qui avait 20 ans et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en vous?
Beaucoup de choses. Quand j'avais 20 ans, en fait, pas seulement 20 ans, les années qui ont suivi, je souffrais d'un décalage entre celle que j'étais et celle que je voulais être. C'est-à-dire que je me sentais vraiment qu'il y avait un écart entre mes aspirations, entre celle que j'aspirais à être et celle que j'étais vraiment. Et aujourd'hui, je crois qu'une de mes plus grandes satisfactions, c'est que je ne sens plus ce décalage. Alors, c'est pas du tout, je me trouve quelqu'un d'exceptionnel ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, j'aspire pas à être quelqu'un d'exceptionnel, pas du tout. Mon aspiration, c'était, vous savez, il y a une chanson, quelques années, qui disait juste quelqu'un de bien, être juste quelqu'un de bien. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était ça, c'était voilà, être juste quelqu'un de bien.
Enzo, ça me revient.
Voilà, c'est ça, exactement.
Alors. Et alors l'avenir, vous le voyez toujours maintenant, c'est le chemin est tracé, vous vous laissez porter sur ce bonheur et ce bien-être? Ou c'est vraiment un travail de chaque jour qu'il faut surveiller?
C'est quand même un travail de chaque jour. Parce que c'est quelque chose qui demande toujours à être, pas dans l'effort, mais à être nourri. Montre à être nourri. Et là, je vois que encore, je vais de plus en plus vers une transmission plus large. J'ai un livre qui va paraître...
Vous viendrez nous en parler.
Mars, oui. Oui, sur toutes les canalisations que j'ai reçues depuis une dizaine d'années. Et voilà, ça c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir éveiller les gens à leur propre lumière.
Eh bien voilà, on arrive au terme de cette émission. Donc pour en savoir plus, bon, le livre au mois de mars, il va s'appeler le livre...
Ça va s'appeler « À l'écoute de votre guide intérieur ».
Ah bah c'est bon, ça mérite d'être clair.
Voilà, et mon site, www.surreliasonguide.com, www.surreliasonguide.com, où pour ceux qui veulent aller aussi plus loin dans cette connexion avec leur guide, le guide intérieur, j'ai préparé 4 vidéos sur comment se relier à son guide intérieur que j'offre aux personnes qui viennent... sur mon site, sur la page d'accueil du site, elles peuvent recevoir ces 4 vidéos pour vraiment aller savoir interroger la part la plus élevée de soi et faire les bons choix dans notre vie.
Eh bien, merci Sophie Gage
Mété.
Et puis à une prochaine fois.
Pour contacter François Démier, envoyez un mail à françois@btlv.fr.
Voilà, c'est terminé. Puis je vous rappelle également que les livres de différents invités des différentes émissions, les livres, eh bien, on peut les trouver sur le site btlv.fr en allant sur l'onglet boutique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite et surtout restez connectés sur BTLV.
Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h. Et si on allait mieux, avec François Démier et ses invités.